les jardinières.
Le soleil fait son grand retour, de quoi réjouir jardiniers et jardinières pour ce long week-end. Il est content lui aussi, même s'il s'est levé tôt. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Cathieu Racine. Bonjour Cathieu.
Bonjour.
Vous êtes contente aussi ?
Oui, très contente.
Bah, tant mieux. Cathieu Racine, vous êtes jardinière à Delémont et guide de randonnée nature. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même. Merci d'être avec nous ce matin.
Et soyez les bienvenus chez les jardinières. Installez-vous confortablement, nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Cathieu, le soleil est de retour enfin et il devrait même nous accompagner tout le week-end. Alors on peut s'installer sur sa terrasse et en profiter, mais on peut aussi jardiner. Qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end au potager ?
Alors maintenant, on peut absolument tout faire puisque les saints de glace sont derrière. C'était le 11, 12 et 13 mai, donc c'est bien bien derrière. Il y a eu encore quelques jours un peu frais et puis maintenant on sent quand même que les journées viennent bien bien tempérées, bien chaudes. Donc on peut tout planter, tout semer. Pourquoi ? Parce que la terre s'est réchauffée en fait. Puis c'est ça le plus important dans le potager, dans le jardinage de légumes. C'est que c'est pas forcément le haut qui doit être chaud, c'est plutôt le bas. Donc vu que la terre maintenant c'est bien réchauffé, on peut tout faire. On peut aussi sans autre planter les tomates, les courgettes, toutes ces plantes méditerranéennes, tous ces légumes qui ont besoin de plus de chaud que ce qu'on a chez nous en début d'année. On peut les mettre en terre, on peut y aller, on peut se faire plaisir vraiment avec tout.
C'est magnifique. Merci beaucoup, Cathieu. Jusqu'à 8h, vous allez répondre aux questions de nos auditeurs, des questions qu'on attend par téléphone et la chance de parler en direct avec Cathieu. Il suffit de composer le 0900 70 20 20 et vous pouvez aussi nous envoyer une photo avec votre question. Il suffit de remplir le formulaire sur notre site sous l'onglet émission questions jardinières. Vous pouvez aussi encore une fois nous envoyer un simple SMS. Vous tapez jardin, un espace et votre question et puis vous nous envoyez ce message au 939.
Les ravageurs sont partout et s'attaquent à vos plantons. Vous ne savez pas comment les protéger, les plantons, hein, pas les ravageurs. Ne bougez pas, après la pause musicale, Cathieu nous partagera son expérience de jardinière pour avoir des plantons en pleine santé.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Cathieu Racine, jardinière et guide nature à Delémont, nous prenons soin de nos plantons. La semaine dernière, notre invité nous a expliqué comment les mettre en pleine terre. Et ce matin, Cathieu va nous dire comment les protéger des différents ravageurs. Alors, la liste des ravageurs est longue. Cathieu, est-ce qu'il est possible de mettre quelque chose en place pour prévenir des futurs ravageurs quand on met nos plantons dans le potager en pleine terre ?
Ça dépend un peu quel planton. Ce qui est très important, ben on en a parlé juste avant, c'est vraiment déjà d'attendre que le climat soit propice à la plantation de ces plantons ou au semis, pour que la plante ait la possibilité de très vite se développer et de pas rester, de pas vivoter, puis d'être attaquée parce qu'elle est faible. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi comme prévention, c'est bien, bien préparer le terrain. Ça veut dire que là, à l'automne, on va vraiment mettre sa terre en place, bien la retourner, que ça soit de manière manuelle ou peut-être avec une petite machine, si on a une grande surface. Et puis, de mettre bien de l'engrais, vraiment, de préparer ce terrain pour que les plantes, dès qu'on les met, soient vraiment à leur place tout de suite. Et puis ensuite, on peut mettre quelques pièges, quelques préventions, mais c'est assez difficile de faire vraiment de la prévention contre les ravageurs parce qu'il y a tellement de facteurs qui sont différents, comme si on plante et puis que tout d'un coup, il vient vraiment du chaud et beaucoup d'humidité, ben, on aura certaines bestioles qui vont venir s'installer. S'il fait un peu moins chaud, ça sera d'autres. Donc prévenir, c'est un petit peu compliqué de faire vraiment de la prévention.
Et puis Cathieu, pour savoir si nos plantons subissent une attaque d'un ravageur, le mieux c'est de l'observer.
Oui, oui, bien sûr, l'observation de toute façon ça résout beaucoup de petits soucis dans le jardin. C'est vrai qu'avant de mettre au petit bonheur la chance des produits sur nos plantes, ou alors de se dire j'en mets déjà au cas où, c'est vrai qu'on peut, de toute façon on passe en général tous les jours une fois au moins dans son potager, même quand il n'y a encore rien à récolter, de se dire ben tiens cette plante-là elle a changé de couleur ou ce planton-là ben, il ne grandit plus, qu'est-ce qui se passe? Et puis là on peut, on, on peut, ça, c'est aussi de la prévention finalement, l'observation.
On a parlé observation et maintenant on va se lancer dans la lutte des ravageurs. Mais avant de pouvoir lutter contre eux, il faut les identifier. Pour certains c'est facile, hein, on les voit comme par exemple les pucerons ou les chenilles. Mais pour d'autres c'est plus difficile. Comment savoir si on subit une attaque? Là vous l'avez dit, une plante peut changer de couleur. Il y a d'autres signes qui peuvent nous alerter?
Oui, tout à fait. Le changement de couleur en général c'est vraiment la première chose dont on s'aperçoit, par exemple une salade, et on va la planter, elle sera belle verte, puis tout d'un coup elle vire au jaune, donc là on s'alarme, il y a quelque chose qui se passe. Ensuite, il y a tout d'un coup des plantons qui peuvent faner, on a l'impression qu'ils ont soif, et puis si on touche la terre, ben, la terre est bien humide, donc c'est pas une question d'arrosage. Après, on a certaines plantes, ben, on reprend une salade par exemple, on l'a mis en place il y a 2 semaines, et puis elle vivote. Elle ne pousse pas, elle ne grandit pas, elle ne s'épanouit pas. Donc là, on verra aussi qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis, bien souvent, c'est en dessous que ça se passe. Parce que si on a une attaque de puceron, ben, on le voit tout de suite. Mais quand il y a ces symptômes, je dirais, qui nous alarment un peu à l'œil, eh ben, il faut aller chercher en dessous. C'est bien souvent là qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des ravageurs.
Et est-ce que, Cathy, tous les ravageurs sont éliminés ou il y en a certains, ça va, quoi, on peut cohabiter avec eux?
Alors moi, je pense que dès qu'on utilise le mot ravageur, ça veut dire qu'ils font des ravages. Donc, ils sont plutôt à éliminer ou à éloigner. On n'est pas non plus obligé de tout zigouiller en bon français. On peut aussi éloigner ou récolter les ravageurs. Mais après, c'est clair que quand on se donne la peine, parce que le potager, enfin tous ceux qui en font savent que c'est un travail énorme. Alors, c'est souvent un plaisir, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Et puis, lorsqu'on a planté nos petites plantes et puis que finalement, il ne reste plus rien au bout de 3 jours, ben, ce n'est pas très agréable, quoi. Ou alors, quand on a une courgette qui est prête à avoir les légumes et puis qu'on arrive, puis qu'en une nuit, tout a été rasé, ben, c'est assez décevant. Donc, c'est vrai que, ma foi, il faut éliminer ces petites bestioles.
Merci, Cathy. On va faire une pause musicale et puis juste après, on va parler de la redoutable limace, celle dont tout le monde parle. Et vous nous donnerez des conseils pour s'en débarrasser. On se retrouve dans un instant.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Cathy Racine, jardinière et guide Natura de Lémont, nous prenons soin de nos plantons. On les a plantés au potager. Excusez-moi. Et on a dit avant la pause musicale qu'on voulait vous parler de ces redoutables ravageurs, les limaces. Alors, Cathy, est-ce que vous avez une très très bonne technique pour se débarrasser des limaces? Parce qu'on entend de tout pour se débarrasser des limaces. Avez-vous la solution?
Non, la solution, je ne l'ai pas parce que moi, cette année, alors je ne suis vraiment pas performante dans ce domaine-là. J'ai mis plein de plantons, puis si vous venez voir mon jardin, mais en fait, il n'y a juste rien. Donc, chez moi, elles sont passées. Éventuellement, vous pouvez venir habiter autour de chez moi. Comme ça, vous pouvez mettre vos plantons et puis les limaces viennent chez moi. Et puis, comme ça, vous n'avez pas de limaces. Non, je plaisante. Il y a beaucoup de manières de se débarrasser des limaces de manière naturelle. Bien sûr, on ne va pas parler de produits chimiques. Mais à mon avis, le plus efficace reste quand même les pièges mécaniques, c'est-à-dire qu'on va les empêcher d'accéder à la plante. On trouve dans le commerce ces espèces de barrières anti-limaces. Je dis espèces parce qu'on appelle ça une barrière, mais finalement, ça fait 20 cm de haut. C'est une plaque qui a le haut qui est recourbé, ce qui fait que la limace en fait reste coincée sous ce bord recourbé. Et puis, on peut entourer notre jardin potager avec ces barrières anti-limaces. C'est quelque chose d'assez cher. Et puis, suivant la grandeur du potager, ben c'est un petit peu compliqué de mettre ça tout autour. Mais ça fonctionne super bien. Et puis, on pourrait aussi, par exemple, si on a juste un petit coin de jardin et qu'on ne veut pas trop investir, prendre des bouteilles en PET. On va les couper au milieu. Et puis, on va mettre le haut de la bouteille sur le planton de salade, par exemple, comme une cloche. Et puis, ben, l'aération se fera par le goulot, donc on enlève bien sûr le bouchon. Après, on pourrait aller dans tout ce qui est matière déshydratante à mettre autour de la plante. Ça veut dire que là, la limace, vu qu'elle a une espèce de mucus, hein, tout le monde a déjà touché une limace, c'est assez dégue. Et puis, en fait, elles ont besoin de cette matière gluante pour se déplacer. Et puis si on les met sur des copeaux de bois, par exemple, et ben en fait, elles perdent cette matière pour se déplacer. Donc on pourrait imaginer de mettre autour de toutes ces plantes de la sciure de bois. On pourrait mettre des coquilles d'œufs broyées aussi, c'est quelque chose qui est très très absorbant. On pourrait mettre des cendres, enfin tout ce qui est déshydratant, des aiguilles de pin aussi par exemple. Donc ça, c'est toutes des pièges aussi mécaniques pour déshydrater la limace pour pas qu'elle puisse accéder à la plante. Et puis, il y a encore évidemment l'histoire de la bière. Tout le monde connaît ça, mais ça marche quand même assez bien de mettre des pièges avec de la bière dedans. Mais cette bière, il faut la changer tous les jours, ça c'est important. Puis il faut faire attention de ne pas faire des trop grands godets, pas trop profonds, à cause des hérissons et puis des autres bestioles qui pourraient aller s'abreuver de bière, donc ça serait pas non plus très...
Ou le voisin.
Ou le voisin. Donc là, on pourrait aussi faire avec une bouteille en pète, couper le bas, mettre de la bière, couper le haut, faire une cloche, faire des trous pour que les limaces puissent rentrer dedans. C'est aussi un piège. Il y en a plein, plein, plein.
Alors Cathy, vous nous avez parlé de beaucoup de remèdes, entre guillemets, naturels contre les limaces. On va en parler quand même un petit peu rapidement. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. On voit souvent ces granules bleues qu'on peut mettre le long du jardin. Bonne ou très mauvaise idée?
À mon point de vue, pas bonne idée, parfois indispensable. Moi, quand j'ouvre ces paquets-là et que je mets le nez dessus, je me dis que c'est pas possible que je mange des légumes qui ont eu ça, qui a pénétré dans la terre. Après, ça n'engage que moi. Attention, si vous faites ça, de ne pas les mettre trop, trop près des plantes. Et plutôt faire une barrière autour des plantes.
Merci beaucoup, Cathieu. On vous retrouvera dans quelques minutes, juste après une petite pause musicale météo et inforoute. On parlera notamment d'un remède efficace contre certains ravageurs. Ce seront les purins.
Les jardinières.
Comme chaque samedi, nous sommes fidèles au rendez-vous pour prendre soin de vos végétaux. Ce matin, c'est Cathieu Racine qui répond à vos questions jardinage. Cathieu Racine, vous êtes jardinière à Delémont et guide de randonnée nature. On peut vous suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même. On vous remercie d'être avec nous ce matin.
Et on attend vos questions par téléphone au 0900 70 20 20. Vous aurez la chance de parler directement à notre spécialiste Cathieu. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site internet et nous envoyer une photo ou alors un simple SMS. Vous tapez jardin, un espace, suivi de votre question. Vous terminez par votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
Cathieu, en première partie d'émission, on a parlé des ravageurs. On avait encore quelques questions à vous poser là-dessus. En particulier de purin, nous allons parler. C'est un remède efficace contre certains ravageurs. Alors avant de se lancer dans sa fabrication, contre quel type de ravageur on peut utiliser un purin d'ortie par exemple?
Par exemple, le purin d'ortie a été le premier à être entre guillemets à la mode. Puis je trouve ça super parce qu'on revient de nouveau dans des produits 100% naturels. Donc celui-là, l'ortie, ça sera vraiment contre les pucerons, ce qui est à mon avis le plus grand ravageur à part la limace, et contre les acariens. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le purin d'ortie n'est pas qu'un remède contre les ravageurs, c'est aussi un excellent fortifiant pour les plantes. Donc quand on prépare un purin d'ortie, on pourra et lutter contre les ravageurs et fortifier ses plantes en le passant en arrosage. Donc il est vraiment super intéressant.
C'est super vraiment d'avoir un purin d'ortie. Maintenant, il faut encore savoir comment le préparer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Cathieu?
Oui, c'est très très simple. Il faut avoir juste un petit peu de patience. On trouve des orties à peu près tout partout dans la nature. Donc on va aller chercher 1 kg d'orties fraîches ou alors si on les a séchées, on pourrait en prendre beaucoup plus et puis les sécher pour faire du purin tout au long de l'année. Donc ça sera soit 1 kg d'orties fraîches ou 100 grammes sèches qu'on va mélanger dans 10 litres d'eau. Et puis ce macérat, en fait, on va le brasser tous les jours. Ça va durer environ, selon la météo, selon la température, entre 10 et 20 jours. En fait, la chose qu'il faut qu'il se passe, c'est qu'il n'y ait plus de bulles. Il faut qu'il n'y ait plus rien qui se passe quand on brasse. Puis quand on a brassé et qu'il n'y a plus du tout de bulles dans l'eau, ça veut dire que notre purin est prêt. Là, on a deux façons de faire. Soit on le passera en arrosage dans un arrosoir avec une pomme sur les plantes. Donc là, on n'a pas besoin de le filtrer beaucoup. Il peut rester très grossier. Juste que ça ne bouge pas la pomme d'arrosoir. Par contre, si on a un petit pulvérisateur, là, il faudra vraiment le filtrer très très fin, qu'il n'y ait rien du tout qui reste dedans, de manière à ce qu'on puisse passer ça au pulvé. Et puis, si on filtre très très fin, on a la chance de pouvoir le garder 2 semaines, un peu dans un endroit frais pour pouvoir l'utiliser plusieurs fois.
Et puis Cathieu, là vous parlez des orties, mais on peut faire du purin avec d'autres plantes.
Oui, on peut faire du purin avec beaucoup de choses. Là, c'est intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil, sur Internet. Mais par exemple, avant, on parlait de la limace. Alors, la limace a horreur de la fougère. Donc, on peut faire exactement la même chose avec des feuilles de fougère, le même procédé, 1 kg pour 10 litres d'eau. La même chose, remuer jusqu'à quand il n'y a plus de bulles d'air, et puis arrosage ou pulvérisation contre les limaces, c'est absolument excellent.
Et on entend aussi souvent parler de décoction chez les jardinières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une décoction et quelle est son utilité ?
Alors la décoction, c'est pratique pour les gens pressés, parce que c'est très très vite prêt. En fait, une décoction, ça veut dire qu'on va aussi utiliser une plante, par exemple de l'ail, et on va faire bouillir l'ail dans de l'eau pour faire une décoction. Ça veut dire qu'on aura un produit naturel qui sera prêt en une demi-journée ou en une journée, le temps que ça refroidisse, que ça soit prêt qu'on filtre, contre un purin qui, lui, sera prêt en une vingtaine de jours à peu près. Donc la décoction d'ail, par exemple, c'est super. Là, on mettra une poignée de gousses d'ail dans un litre d'eau, on fait bouillir tout ça, une quinzaine de minutes, ça doit réduire à peu près d'un tiers dans la casserole. On laisse refroidir et puis on pulvérise ça sur nos salades, par exemple, de nouveau contre les pucerons. L'ail est très bon contre les pucerons. Donc la décoction est intéressante parce qu'elle est rapide.
Et aucun risque ensuite pour consommer la salade ou faut attendre quand même quelques jours ?
Non, on aura de la salade qui aura peut-être un petit goût d'ail, mais c'est peut-être pas dérangeant.
Ça passe.
Mais ça passe, exactement. C'est mieux que du purin d'ortie au choix. Hein.
Et puis Katiou, en parlant de ravageurs, elles arrivent bientôt, les cerises. Et puis de temps en temps, on a une petite surprise. On trouve un petit ver dedans. Alors ça, c'est pas très cool, surtout si on est végétarien. Pour les cerisiers, il faudrait agir un peu plus en amont quand même. Mais est-ce qu'on peut faire encore quelque chose maintenant quand elles sont encore petites et vertes ?
Alors maintenant, oui, il existe dans le commerce, pour ceux qui ont déjà regardé un petit peu au rayon des traitements, entre guillemets, des espèces de plaques en plastique jaune qui font peut-être 30 cm sur 20 cm, donc un rectangle comme ça, qui sont engluées, enfin déjà engluées à l'achat. Et puis, on va placer ces plaques dans les cerisiers. Il faudra 3 à 8 plaques selon la taille du cerisier, bien évidemment. Et puis en fait, ces plaques, elles se mettent au moment du changement de couleur. Entre le moment où la cerise passe du vert au rouge, on va installer ces plaques un tout petit peu avant. Et puis, il y a des phéromones qui sont sur ces plaques. Et puis, la mouche de la cerise, au lieu d'aller pondre sur la cerise, va aller pondre sur les plaques qui sont engluées. Donc ça, c'est vraiment un remède très, très efficace, super naturel. Puis en plus, ces plaques, elles sont intéressantes parce qu'à la fin de la saison, on peut les nettoyer. Et on peut simplement racheter le tube de glu et les engluer soi-même pour l'année prochaine. Donc c'est un achat qui est un petit peu conséquent au départ, mais qui finalement n'est pas trop cher à l'utilisation.
Merci beaucoup Katiou pour vos précisions. On va faire une petite pause musicale et ensuite vous répondrez aux questions de nos auditeurs, des questions que l'on attend soit par téléphone au 0900 70 20 20. Vous pourrez parler directement avec Katiou. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site internet. Vous pourrez nous envoyer une photo avec ce formulaire. Ou alors vous avez aussi la possibilité du SMS. Vous tapez jardin, un espace et votre question et votre nom. Et puis vous nous envoyez tout ça au 939.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardin du samedi matin. Nous sommes en compagnie de Katiou Racine. Elle répond à vos questions jardinage. D'ailleurs, si vous avez une question, c'est le moment d'attraper votre téléphone, Brian.
Exactement. Vous pouvez poser ces questions par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous aurez la chance de parler directement à Katiou. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site internet. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est aussi nous envoyer un SMS au 939. Vous commencez votre message par jardin. Vous terminez par votre nom. Ce sera un plaisir de décortiquer tout cela en direct.
Et Jérôme est passé par le formulaire pour nous poser sa question parce qu'il nous a envoyé une photo. Bonjour, je possède un pêcher depuis 3 ans et chaque année, les feuilles ont comme des cloques et tombent facilement. Depuis cette année, plusieurs fruits arrivent et j'aimerais le soigner au mieux afin que nous puissions enfin les déguster. Merci pour votre réponse et il nous souhaite un bon week-end. Alors Katiou, avec la question de Jérôme, il y a donc cette photo et c'est vrai qu'on voit quelques feuilles, elles n'ont pas l'air très très bien.
Non, c'est une maladie qui est très très courante, ça s'appelle effectivement la cloque du pêcher. Donc c'est vraiment des cloques qui apparaissent sur les feuilles, pour ceux que ça intéresse, on peut aller voir quelques photos sur internet aussi. Et puis cette cloque du pêcher, en fait, c'est un champignon qui se promène dans l'air et puis qui va se déposer sur les pêchers et puis qui fait cette espèce de peau un peu avec des verrues comme ça. Et puis, maintenant, en curatif, ben, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Ou alors, on pourrait vraiment mettre des produits très, très chimiques, mais là, qui devront être appliqués par des professionnels. Ce que Jérôme peut faire l'année prochaine, ou déjà cet automne, c'est de faire des traitements préventifs avec du cuivre, en fait. C'est un peu le seul médicament qu'il y a naturel qu'on peut acheter nous-mêmes dans les grandes surfaces. Donc là, on va faire 3 traitements. On va faire un traitement à l'automne, hein, vraiment bien traiter cet arbre. On va refaire un traitement au mois de janvier, février, ben, selon la température, parce que quand il fait trop froid, les produits qu'on applique sur nos plantes ne sont pas du tout efficaces. Et puis, on refera un traitement au cuivre quand les bourgeons sont prêts à éclore. Donc les bourgeons des feuilles, hein, pas des fleurs. Donc c'est un peu près la seule chose qu'on puisse faire. Si on voit que l'attaque commence rapidement, on peut aussi enlever manuellement les feuilles qu'on voit qui sont attaquées, bien les mettre dans un sachet plastique, les mettre à la poubelle, surtout pas dans le compost, parce que sinon, ben, ça continue de prospérer. Un champignon, il n'a aucun problème à prospérer ailleurs que sur une plante. Et puis, très important, mettre beaucoup d'engrais à l'automne, au printemps, des engrais naturels, du compost, une bonne taille pour fortifier les plantes. C'est vraiment très important. Plus les plantes sont fortes, moins elles seront malades. C'est exactement comme les êtres humains.
Merci beaucoup, Katiou. On a aussi reçu une question de Mickaël de Broplambeau. Bonjour, ce genre de ver dont je ne connais pas le nom mange mes racines. J'ai 2 questions. Quel est le nom de cette larve ou de ce ver? Et comment lutter avant que mes plantons ne subissent une mort certaine? Un tout grand merci pour votre précieuse aide. Alors, si on décrit la photo, c'est une sorte de gros ver blanc plein de terre.
Voilà. Alors ça, je pense que tout le monde sait exactement, sans aller voir sur Internet de quoi on parle, parce qu'on en a tous eu, on a tous dans notre jardin. Il y a 2 larves dans ces grosses larves blanches très dodues, comme ça, qui ne sont pas très ragoûtantes. Là, c'est un peu bof. Il y a la larve du hanneton et la larve de cétoine. Alors, il faut bien faire la différence. Quand vous sortez cette larve de votre terre, si elle a des poils très drus sur le dos, c'est la cétoine. La cétoine ne fait absolument rien à nos végétaux vivants. Elle ne se nourrit que de déchets organiques dans le sol. Donc celle-là n'est absolument pas responsable de ce qui se passe dans vos plantons. Par contre, le hanneton, donc il n'aura pas de poils sur le dos, lui, c'est vraiment le ravageur. Donc lui, il va avancer dans la terre. En fait, ça ne l'intéresse pas tant les racines des plantes, mais en fait, il veut passer. Donc en fait, il coupe tout ce qui est sur son passage, comme la courtilière, par exemple. Et puis le hanneton, eh ben, on va remarquer qu'il est là parce que les plantes viendront jaunes, elles vont vivoter. Elles vont pas vraiment mourir, mais en fait, elles vont pas non plus aller très très bien. Et puis, la lutte qui existe contre cette larve de hanneton, ça, on trouve aussi dans les surfaces de la place, dans les grandes surfaces, ce sont des nématodes auxiliaires. En fait, on va commander ça dans les magasins, on les reçoit à la maison sous forme de poudre qu'on devra mélanger avec de l'eau. Et puis, en fait, on devra arroser le sol où il y a nos plantons avec ça. Et puis, ces nématodes vont se développer et aller attaquer ces grosses larves. Donc ça, c'est un excellent moyen de lutte contre ces vers de hanneton.
Et si on a un grand jardin, on doit en mettre dans tout le grand jardin?
En général, ces larves de hanneton, elles se plaisent beaucoup dans les endroits qui restent très, très humides. Mmh. Donc là, on va déjà essayer d'éviter de planter à ces endroits-là. Maintenant, si on n'a pas possibilité de faire autrement, ben, il faut vraiment essayer de cibler les endroits qui seront le plus attaqués, mais on le verra tout de suite. Hein. Il suffit de prendre une bêche, on retourne un tout petit peu la terre, et puis on voit s'il y a quelque chose ou s'il n'y a rien du tout. Et puis on traitera aux endroits où il y a les larves.
Merci beaucoup, Katiou. Et puis si jamais ces larves sont très appréciées de nos amis, les poules.
Oui, voilà. C'est vrai, on peut les lancer, elles aiment bien ça. Hein.
On va se retrouver dans quelques instants pour la suite et déjà la fin de cette émission des jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est déjà presque terminé pour aujourd'hui, 7h53. Nous sommes toujours en compagnie de Katiou Racine, jardinière et guide nature à Delémont. Et Brian, je crois que quelqu'un a profité de ces derniers instants, je vais parler juste, pour nous appeler.
Exactement, c'est Josiane qui nous vient de Fontaine-Melon. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Josiane. Votre question pour Katiou?
Alors, juste, c'est vers fil de fer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous y voit toutes les racines sous les salades.
Ah, ils zigouillent ceux-là, c'est l'horreur. Malheureusement, il n'existe plus grand-chose. Il y avait autrefois des excellents produits qu'on pouvait tremper les mottes. En fait, ce n'était pas du tout toxique pour la plante. On pouvait tremper les mottes avant la plantation. Et puis, ça tuait les vers fils de fer. Malheureusement, maintenant, ça n'existe plus. On peut essayer avec la décoction d'ail. C'est quelque chose qui fonctionne pour beaucoup de bestioles. Avant de planter, avant de mettre les mottes, comme vous faisiez avant, je pense que vous l'avez fait, vous faites une décoction d'ail bien concentrée et puis vous trempez vos mottes dedans avant de les planter. Et puis, les 10 premiers jours de plantation, vous arrosez avec ça. À mon avis, ça va faire un effet assez conséquent.
Oui, d'accord. Voilà. Donc, avec le purin d'ortie, là maintenant, parce que moi, je fais beaucoup au purin d'ortie.
Oui, alors plutôt la décoction d'ail. Vous allez sur Internet, vous mettez décoction d'ail, et puis vous allez trouver la recette, et puis ça va être efficace.
Ok, ben, voilà. C'est super gentil à vous.
Merci.
Je vous écoute tous les samedis matin.
Merci pour votre fidélité, puis on espère que cette décoction d'ail sera puissante sur ces vers.
Oui, merci beaucoup. Allez, bon week-end à vous tous.
Merci. Bon week-end. Bon. Eh bien, Katchou, il est déjà presque l'heure de se dire au revoir. Donc, nous avons parlé des ravageurs de plantons. Tout ça sera à réécouter en podcast sur notre site en cours de matinée.
Et puis, on rappelle que vous êtes jardinière à Delémont et guide de randonnée nature. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même. C'est toujours un plaisir de vous recevoir chez les jardinières. Bon week-end.
Bon week-end aussi.
Et on espère que vos plantons survivront, Katchou.
J'espère.
Rendez-vous samedi prochain dès 7h en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, cette fois-ci paysagiste à Queuve, pour de nouvelles aventures au potager. Bon week-end, Brian.
Bon week-end, Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous. Bon jardinage.
7h, 8h, les jardinières.